L'amorce. L'amorce avec Jean-Simon Buis.
Il est 5h au FM 93. Bienvenue dans l'amorce. Content de vous retrouver après ce long week-end de l'Action de grâce. J'espère que vous en avez profité pour retrouver vos forces, voir votre famille, profiter des couleurs de l'automne, de la température qui s'est gâtée un peu, notamment hier après-midi, alors que c'était pas mal beau en début de journée. Je sais pas si vous avez été témoin des vents qui se sont levés là, très, très fort aux alentours de 16h, 17h. On a tout à coup senti comme la fin de l'automne le fun, l'espèce d'automne à 15 degrés avec du soleil. Puis là, on a senti vraiment les bourrasques de vent, la petite pluie qui risque de nous tomber dessus un peu plus dans les prochaines semaines. Là, l'automne plate, on pourrait l'appeler de même, avant l'arrivée de la neige dans déjà quelques semaines, un mois. D'ailleurs, parlant de neige, on a des prévisions. Bon, on va prendre un petit P, là, évidemment, parce que souvent les prévisions des organismes météorologiques par rapport aux saisons qui s'en suivent ont tendance à changer un peu avec le temps. Mais quand même, on a AccuWeather, l'organisme météo, qui a décidé de sortir ses prévisions pour l'hiver qui s'en vient au Québec. Mais sachez que ce qu'on dit, c'est qu'on va passer une bonne partie de l'hiver à pelleter, donc hiver très neigeux, beaucoup de précipitations de neige au Québec. Mais par contre, ce serait un petit peu plus doux en termes de température. On dit hiver neigeux anticipé dans une grande partie de la province, incluant Montréal et Québec, en raison d'un nombre accru de tempêtes gorgées d'humidité qui arriveront du sud-ouest. Alors, on dit que ça va faire le bonheur, évidemment, des amateurs de ski et de motoneige. Mais par contre, ça devrait nous protéger des vents glaciaux descendant de l'Arctique. Mais par contre, ça pourrait amener des températures plus froides à la fin de l'hiver. Alors, vous voyez qu'on ne sait pas grand-chose, finalement, à part qu'il va nous neiger dessus pas mal dans les dans les prochains mois. Mais ce serait peut-être un petit peu plus doux, ce qui est quand même pas mauvais. Je pense que la plupart des gens préfèrent de la neige puis pelleter que de se taper des moins 35. C'est un petit peu plus agréable quand même. Un petit peu plus à court terme, côté météo, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines heures, les prochains jours? Aujourd'hui, c'est une belle journée. Maximum de 10 degrés avec alternance de soleil et de nuages. Demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages également. On grimpe à 13 et on perd quelques degrés au mercure à compter de jeudi. On va descendre aux alentours de 8 degrés, c'est le maximum qui est prévu. Ça, c'est un petit peu en deçà des normales de saison qui sont fixées à 10. De la pluie qui est prévue pour jeudi, on dit pluie intermittente pour la plupart de la journée. Et vendredi, c'est un maximum de 8 avec des nuages. Tendance à long terme, déjà si on a déjà envie de penser au week-end prochain, du soleil qui devrait revenir aux alentours de samedi. Mais pour l'instant, on profite des belles journées qui nous attendent jusqu'à demain. Très très frisquet ce matin, on a 1 degré au mercure à Québec. On passe tout de suite à ce qu'il faut savoir ce matin dans l'actualité. Un petit tour du côté de la campagne électorale fédérale. D'abord, quelques nouvelles concernant le vote par anticipation qui s'est tenu dans les derniers jours. Vous savez qu'il était possible de voter entre vendredi et hier, les bureaux de vote par anticipation qui fermaient hier. Et c'est une stratégie pour l'électeur qui gagne de plus en plus en popularité dans les dernières années, que ce soit au provincial ou au fédéral. On n'a pas encore les chiffres pour dimanche et hier. Par contre, on a les chiffres, le nombre de personnes qui se sont déplacées pour voter dans un bureau de vote par anticipation dans les deux premières journées, donc vendredi et samedi. 2 millions de Canadiens quand même, c'est 25% de plus qu'en 2015. Donc, pas mal de gens qui se déplacent. J'étais allé moi-même voter par anticipation hier du côté de Val-Bélair, là, sur le bureau de la Haute-Saint-Charles. Il y avait pas mal de monde en début de soirée quand j'étais allé. Et la dame qui était là me disait que ça n'a pas arrêté de la fin de semaine. Les gens semblent de plus en plus arranger leur horaire autour du vote par anticipation. C'est sûr, parfois, c'est plus difficile un peu de se libérer la journée même du vote. Parlant de ce vote-là, justement, où est-ce qu'on en est dans les intentions de vote? J'ai deux sondages dont je veux vous parler ce matin qui nous donnent une idée un peu du portrait à une semaine des élections. Ben oui, parce que c'est dans moins d'une semaine que l'on va savoir qui sera le prochain premier ministre du Canada et son gouvernement. D'abord, un sondage Main Street, publié dans les journaux du groupe Capital Média ce matin, dont Le Soleil. Là. Les conservateurs, qui seraient devant les libéraux, d'après ce sondage-là, 32% contre... Et donc, évidemment, vous comprenez qu'à 32-31, avec la marge d'erreur, c'est égalité statistique, là. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux partis présentement. La seule chose, c'est la répartition des votes, évidemment. Là. Puisque c'est pas nombre de députés par rapport au pourcentage d'intention de vote, ben il faut regarder un peu la répartition. Où est-ce qu'ils sont ces électeurs-là? Et pour les libéraux, il y a quand même un léger avantage parce que le vote est très concentré en Ontario, où est-ce qu'il y a une quantité assez phénoménale de députés, juste dans le Grand Toronto, là, le Toronto et les environs, là, on dit que c'est un député sur six qui provient de là. Donc, en soi, c'est presque l'équivalent du nombre de circonscriptions qu'il y a au Québec. Ce qui fait en sorte que, ben, les libéraux, grâce à cette concentration-là, seraient peut-être capables de se faufiler et de remporter les élections. Mais évidemment, rendu à 32-31, on est dans un scénario de gouvernement minoritaire, on se comprend. Pour ce qui est des autres partis, bon, on est loin derrière, là. Les conservateurs libéraux font une chaude lutte pour la victoire, sauf que en arrière, le NPD est encore très, très loin. Peu probable qu'en une semaine, ils parviennent à récupérer le terrain qui leur reste à récupérer. Mais ils ont quand même, faut le noter, gagné 9 points de pourcentage dans les intentions de vote dans les dernières semaines, donc depuis le début de la campagne électorale. Sont maintenant à 17%, ce qui fait en sorte que on peut considérer que Jack Meeting a fait une bonne campagne électorale, mais ce sera trop peu trop tard pour lui, probablement. Autre sondage qui nous donne un portrait davantage précis de ce qui se passe au Québec, c'est un sondage Forum Research dans The Gazette à Montréal, qui indique que libéraux et bloquistes sont nez à nez dans les intentions de vote chez les Québécois. Vous voyez, Parti libéral est à 33% des intentions de vote, alors que le Bloc québécois se trouve à 31%, plus ou moins marge d'erreur. On se retrouve encore une fois à peu près avec deux partis qui sont à égalité. Et on a le profil, c'est ça qui est intéressant, profil des électeurs pour ces deux partis, les deux partis qui mènent au Québec présentement. L'électeur libéral aurait entre 35 et 45 ans, résiderait à Montréal ou dans le nord-ouest du Québec et est anglophone, serait anglophone, tandis que celui qui voterait pour le Bloc est âgé de 65 ans et plus et demeurait en banlieue de Montréal, serait francophone. Alors dans le 4-5-0, on s'attend à pas mal de bloquistes qui passent dans ce coin-là, mais voyez un peu l'espèce de portrait très très différent des électeurs au Québec. Et on dit souvent qu'il y a plusieurs Québec dans le portrait des élections. Alors plus à Montréal, des libéraux, les gens qui sont allophones, anglophones, risquent de voter pour les troupes de Justin Trudeau, tandis que les francophones risquent de voter Bloc québécois. Puis évidemment, à Québec ici, aux dernières nouvelles, la plupart des conservateurs, des députés sortants conservateurs sont encore en phase de remporter une victoire. Donc, vous avez comme trois réalités différentes. Alors, évidemment, vous pouvez penser que la performance de François Blanchet au débat des chefs en français a probablement donné un air d'aller à son parti. Toujours en lien avec la campagne électorale, un petit mot sur justement la probabilité d'un gouvernement minoritaire. Qui dit gouvernement minoritaire dit possiblement des forces qui pourraient se joindre ensemble pour gouverner. Quoi que ça arrive jamais, là. Souvent, pendant la campagne électorale, on entre-ouvre des portes et finalement, on les referme. Évidemment, le Bloc québécois, lui, aimerait bien ça, avoir la balance du pouvoir pour influencer les décisions du gouvernement qui va être en place, ce qui pourrait être le cas s'il y a un gouvernement minoritaire et assez de députés pour Yves-François Blanchet. Sauf que lorsqu'on questionne les chefs des partis par rapport à une coalition réelle, c'est-à-dire vraiment deux partis qui s'installent ensemble pour former une majorité et collaborer constamment, ben leur réponse est pas mal non. Au départ, Jack Meeting disait du côté du NPD, c'est pas fermer la porte là, avec les libéraux, ça arrive, on pourrait avoir des discussions pour un gouvernement de coalition. Finalement, a décidé de fermer la porte, il dit, oh non, ça fonctionnera pas de même. Même chose aussi du côté du Bloc québécois qui disait, oh, nous autres, ça va être selon chaque décision. Et je vais vous faire écouter la réponse très brève d'Andrew Scheer par rapport à une éventuelle coalition avec le Bloc québécois. Vous allez entendre que c'est assez clair.
Je n'ai pas besoin de travailler avec le chef du Bloc québécois à Ottawa. Je peux travailler avec M. Legault pour envoyer les résultats.
Sur mon dos, il dit, j'ai pas besoin de dire François Blanchet pour parler au Québec. J'ai déjà François Legault comme interlocuteur. Alors, attendez-vous pas à ce qu'il y ait des grandes embrassades entre les partis politiques suite aux élections puis des coalitions qui se forment. Si c'est un gouvernement minoritaire, habituellement, ben, le scénario, c'est à chaque décision, il y a un vote, et à un moment donné, souvent, il y a un vote de confiance en chambre, et là, on parvient pas à aller chercher une majorité, ce qui fait en sorte que, dans un an et demi, on risque de se ramasser en élection, si on se ramasse avec un gouvernement minoritaire le 21 octobre prochain. Deuxième élément dans l'actualité ce matin, on change de registre, on s'en va dans le monde de la santé. C'est à la une du Journal de Québec. C'est leur firme Tabloïd, là, qui a fait un test terrain sur la facilité d'obtenir des antidépresseurs. On s'est rendu dans différents bureaux d'un médecin de famille, des bureaux sans rendez-vous, pour essayer d'avoir des pilules, voir de quelle façon les médecins allaient les prescrire. Est-ce que c'est facile d'obtenir des antidépresseurs au Québec? Vous savez qu'on est des champions de consommation d'antidépresseurs au Québec. Alors, vous arrivez dans un bureau de médecins sans rendez-vous, et donc la journaliste a dit, ben moi je souffre d'anxiété, j'ai des crises de panique, du mal à me concentrer, de l'insomnie, je me sens triste, j'ai pas d'appétit, donc des symptômes typiques de dépression ou d'humeur dépressive. Et sachez qu'en 2 minutes 45 en moyenne, on est parvenu à obtenir des... pas en moyenne, excusez-moi, là, c'est le plus rapide ça. 2 minutes 45, à un moment donné, dans un des 10 rendez-vous qu'on a obtenus, on est parvenu à obtenir des pilules pour traiter l'anxiété ou la dépression. Dans le cas du rendez-vous de 2 minutes 45, c'est des activants qui ont été prescrits. Ça, c'est des pilules contre l'anxiété. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ces résultats-là, au-delà du fait que c'est très facile, puis c'est un test qu'on avait déjà fait, je pense, en 2014, dans Bouchard en parle, un ex-collègue qui avait fait la même chose à peu près, puis qui était parvenu à la même conclusion, c'est-à-dire que c'est très facile dans une clinique d'obtenir des antidépresseurs. Ce qui me semble encore plus préoccupant dans ces résultats-là, c'est que dans beaucoup de cas, on prescrit des antidépresseurs. On a, par exemple, Effexor. Le premier rendez-vous a duré 10 minutes avec le médecin. Prescrit des Effexor, 75 mg pendant 6 mois, pas de suivi. C'est-à-dire qu'il ne va jamais revoir le patient. Même chose, deuxième rendez-vous, on prescrit deux pilules, un anxiolytique puis un antidépresseur, pas de suivi non plus. Troisième rendez-vous, encore du Paxil, un médicament qui est réputé pour avoir des effets secondaires assez importants. 30 mg pendant 7 mois, pas de suivi non plus. Quatrième rendez-vous, pas de suivi. Cinquième rendez-vous, il y a un suivi. Autrement dit, là, dans les 10 rendez-vous, là, il y a eu trois suivis, puis le reste, pas de suivi. Donc, 7 rendez-vous sur 10 ne donnent pas lieu à des suivis, alors que généralement, les médicaments psychotropes, les médicaments comme des antidépresseurs, demandent un suivi assez serré de la part du médecin traitant. Alors, c'est assez particulier. Là, on est allé parler du côté des... on est allé parler aux psychiatres pour avoir leur réaction. Comment ça, les omnipraticiens prescrivent autant d'antidépresseurs? Là, on dénonce le fait que ça n'a pas vraiment de bon sens, puis que le problème, c'est qu'on n'a pas de médecin de famille, ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui prescrivent trop rapidement. On est allé parler aussi à la Fédération des omnipraticiens qui disent que c'est un réflexe pour essayer de faire en sorte que le patient se sente mieux. Mais de part et d'autre, on semble dire qu'il y a peut-être un problème de prescription trop rapide et également de difficulté à obtenir de la psychothérapie au Québec, alors que c'est démontré que une psychothérapie à long terme a souvent des meilleurs effets que des antidépresseurs qui parfois sont comme un plaster sur le bobo, mais doivent être pris à très long terme et sans compter les effets secondaires. Donc, ce n'est pas des très, très bonnes nouvelles, sauf qu'encore une fois, ben, c'est une question d'avoir les programmes nécessaires pour ces gens-là qui souvent n'ont pas les moyens de voir un médecin de famille, se retrouvent dans une clinique avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, puis là, ils vont se mettre sur les pilules, puis pas être capable de s'en détacher. Sauf que là, ce qu'on souhaite, apparemment, là, qu'il y a un déploiement d'un programme en psychothérapie qui s'en vient, qui devrait arriver. Ça avait été déployé par Gaétan Barrette fin 2017. Ça devait permettre à une personne qui a un trouble mental fréquent, peu importe son âge, d'avoir accès à des services de psychothérapie, oui, sans frais. Mais pour l'instant, c'est pas encore mis en place partout au Québec. Troisième élément sur lequel je veux qu'on s'attarde ce matin, c'est en lien avec les fameux crédits carbone. Vous entendez peut-être parler de ça beaucoup, surtout en contexte de campagne électorale. On parle de ça pour les entreprises, pour les individus aussi, en disant « Ah, telle entreprise a acheté des crédits carbone. » Justin Trudeau, à un moment donné, pendant le débat, vous vous souvenez, s'est fait lancer par Andrew Scheer. Vous êtes le seul chef à vous déplacer avec deux avions. Un avion pour vos costumes, puis un avion pour vous. Lui avait dit, on a acheté des crédits carbone. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, des crédits carbone? Bon, d'abord, c'est comme des certifications qu'on achète auprès d'une entreprise qui, elle, est spécialisée là-dedans, puis est la seule en Amérique du Nord qui est capable de donner une certification. Vous payez à peu près 20 $ par tonne de gaz à effet de serre que vous produisez, et en quelque sorte, vous achetez bonne conscience, c'est tout ça, ou bien il y a quelque chose de concret. Bien, ce qui est concret, ce serait la plantation d'arbres. Notamment. C'est une des promesses fortes pour l'environnement du gouvernement, du parti de Justin Trudeau pendant la campagne électorale, qui dit, si on est élu, on va planter 2 milliards d'arbres pendant le prochain mandat pour contrer l'émission de gaz à effet de serre. Bon dossier de la presse ce matin, qui s'est intéressé justement à ces crédits carbone et la forme qu'ils prennent sur le terrain, c'est-à-dire de jeunes pousses des arbres qui auraient été plantés. Ce qu'ils se sont rendus compte sur le terrain, c'est que dans plusieurs cas, on a planté les arbres sur des terrains au sol très, très pauvre, ce qui fait en sorte que les arbres n'ont pas réussi à pousser. On va donner un exemple où est-ce que, pas loin de Saint-Bruno-de-Montarville, sur la rive sud de Montréal, on devait planter 13 000 épinettes. Ça a été fait. On plante des milliers d'arbres. Sauf qu'il y avait 3 pouces de terre au-dessus de la roche. Donc, les arbres n'ont jamais pris racine. On les a déracinés après quelques mois. Et là, maintenant, c'est juste un terrain vague où est-ce que les bulldozers passent. Alors, côté crédit carbone, pas très efficace. Même chose à Thetford Mines, où est-ce que t'as 27 000 arbres qui ont été plantés en 2015, toujours dans l'objectif de contrer les gaz à effet de serre. Des milliers sont morts, encore une fois, en raison de la pauvreté du sol et du fait qu'on n'en prend pas soin. Parce qu'on note dans l'article, c'est facile planter un arbre, là, de mettre une petite pousse dans le sol, mais encore faut-il le surveiller, voir qu'il pousse bien, s'assurer qu'il ne se fasse pas étouffer par d'autres plantes. D'ailleurs, c'est le cas à Blainville, où est-ce que il y a bon nombre des milliers d'arbres qui ont été plantés, qui ont été étouffés par des roseaux, qui est une plante envahissante, qui ne sert pas à grand-chose, et qui fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de permettre à ces arbres-là d'atteindre la maturité et de servir à quelque chose, dans le fond. Et en plus de ça, ben, on en a planté le long des chemins de fer. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben là, les services publics arrivent, puis ils rasent les arbres. Alors, ça se demandait si c'est pas juste des opérations de marketing, puis d'image publique, de dire, ben oui, on achète des crédits carbone, on plante des arbres. Parce que finalement, ces arbres-là t'offrent même pas quelques mois, quelques années avant de se faire couper ou de se faire étouffer. Alors, les 2 milliards d'arbres de Justin Trudeau, qu'en restera-t-il lorsqu'on les aura plantés et peut-être déracinés parce que le sol sera pas assez fertile? Ben, c'est à suivre dans les prochaines années, bien entendu. 5h15, courte pause. Au retour, on jase sport avec Dan Pou.
La chronique de Pierre-Yves McSween dans Bouchard en parle.
Lundi au vendredi, 7h25.
Au FM 93.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
N'importe qui rénove sa cuisine sait que ça va être le bordel, mais que ça vaut la peine. C'est la même chose avec le tramway. La ville va être bloquée pendant un petit 2 ans, mais qui s'en soucie? C'est pourquoi Option Subaru continue à vous offrir des modèles comme la toute nouvelle Outback 2020 complètement redessinée à partir de 32 808 $. Bien sûr, on pense aussi que tout le monde va utiliser le tramway. Mais pour ceux qui auraient le malheur de ne pas être sur le trajet, on vous propose une option. Slogan.
Ta meilleure option, c'est Option Subaru.
Pour atteindre le fond du filet avec précision, ça prend le meilleur bâton. Profitez de la foire du bâton à l'Entrepôt du hockey. Jusqu'au 20 octobre seulement, ils payent les taxes sur tous les bâtons de hockey à prix régulier. À l'Entrepôt du hockey de Québec, l'ancienne Lorette et maintenant Lévis.
L'hiver s'en vient et chez Antirouille Métropolitain, nous sommes prêts. Cet hiver, votre véhicule affrontera la neige, le froid, ainsi que tous les abrasifs épandus sur nos routes. Avec plus de 40 ans d'expérience et un produit unique, nous sommes le seul réseau spécialiste recommandé par CAA Québec. Chez Antirouille Métropolitain, nous sommes prêts à protéger votre véhicule. Prenez rendez-vous dès maintenant. Antirouille Métropolitain. Grouille avant que ça rouille.
Sur le boulevard Wilfrid Amel à Québec et sur Guillaume Couture à Lévis. Visitez-nous sur antirouille.com.
C'est le festival de crevettes à la Casa Grecque. Savourez une assiette de crevettes papillons servies avec sauce à l'ail et de succulents accompagnements pour seulement 15,95 $. Tous les jours, pour un temps limité, nos légendaires crevettes papillons pour 15,95 $. Et n'oubliez pas d'apporter votre vin.
L'hiver, ça prend des bons essuie-glaces et pour ça, c'est Canadian Tire. Procurez-vous les essuie-glaces Reflex, testés pour l'hiver à des prix incroyables. Textez glace au 25226 et vous pourriez gagner une des deux paires que je donne aujourd'hui. Pour vos essuie-glaces, c'est Canadian Tire.
Cet automne, réservez avec Voyage Laurier du Vallon et obtenez un crédit voyage jusqu'à 100 $ par couple. Profitez de toutes nos promotions, celles de nos partenaires et payez en 6 versements. Avec Voyage Laurier du Vallon, vos vacances, bonheur inclus.
Vous rêvez d'aventure en famille? La nouvelle Ascent 2020 de Subaru est pour vous. Un superbe VUS à 3 rangées qui allie performance, fiabilité et sécurité. Subaru, confiance et évolution.
Ici Pierre Lavoie du Grand Défi. Joignez-vous à nous le samedi 19 octobre prochain lors de la Grande Marche de Québec. Rendez-vous dès 10h à la Fontaine de Tourny, face au Parlement, pour le spectacle de Brigitte Boisjoli et pour marcher 5 km. Inscription gratuite sur enmarche.com.
Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour.
À Terrebonne, Loop Canada a grandi son usine pilote de recyclage de plastique et de fibres en y investissant 9 300 000 $. Loop Canada, qui embauchera 22 nouveaux employés, se spécialise dans le recyclage du polyester des tapis et des vêtements, dont les fibres contaminées par des colorants ne peuvent être recyclées par les techniques conventionnelles.
Le succès économique du jour. Une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média.
Pour économiser sur vos coûts de chauffage cet hiver, procurez-vous une thermopompe. Et pour économiser encore plus, gagnez-vous une thermopompe. Grâce au FM 93, vous pourriez gagner une thermopompe Panasonic d'une valeur de 5 000 $ offerte par Enviro Confort. Textez le mot Confort au 25226. Vous recevrez automatiquement un rabais de 250 $ à l'achat d'une thermopompe. Et du coup, vous devenez finaliste pour gagner une superbe thermopompe Panasonic installée chez vous. Une idée réconfortante d'EnviroConfort et du FM 93.
L'amorce avec Jean-Simon Buy. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
On est mardi le 15 octobre 2019. Bon matin, il est 5h19. Bienvenue dans l'amorce. Un petit coup d'œil à la météo. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Semaine en deux temps. D'abord, aujourd'hui, maximum de 10 degrés, alternance de soleil et nuages. Très agréable. Demain, mercredi, encore plus chaud un peu. 13 degrés devient intéressant parce que là, les maximums sont à 10. Donc, tous les degrés qu'on peut avoir de plus, on les prend. Alternance de soleil et nuages également. On perd le soleil à compter de jeudi pour la journée pluvieuse de la semaine. Maximum de 8 seulement. Vendredi, maximum de 8 aussi avec des nuages. Et à long terme, pour samedi, dimanche, lundi, là, vraiment plus loin, là, ce serait du soleil qui reviendrait. Donc, profitez des rayons de soleil aujourd'hui et demain parce que jusqu'à vendredi par la suite, ce sont des nuages. Et pour le moment, on a un petit degré à Québec. Dan Pou, bon matin.
Salut Jean-Simon.
On commence par parler des remparts un peu.
Ouais, parce que là, les remparts, c'est un début de saison, sauf que ça va bien, ça va bien, ça va bien. Puis à chaque match ou à peu près, ils gagnent. Sixième victoire de suite hier à Shawinigan. Leur fiche depuis le début de la saison, c'est 8 victoires et 2 défaites.
Wow.
Au début de la saison, on connaissait pas trop les remparts. On disait, ah, ils vont finir où? Ils vont finir correct, là, milieu de peloton. Mais tu sais, honnêtement, les prédictions, c'est souvent fait pour être bafoué. Tu sais, t'as beau penser ce qui va arriver avec une équipe, ça veut pas dire que c'est ça qui va arriver.
Mais oui.
La beauté de l'histoire, c'est que les remparts vont bien. Et ce vendredi, la visite, c'est l'Océanique de Rimouski et le meilleur joueur de la Ligue, Alexis Lafrenière. Celui qui est pressenti pour être le tout premier choix au prochain repêchage de la LNH à Montréal au mois de juin prochain, ben il s'en vient à Québec. Donc vendredi, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de monde au centre Vidéotron. C'est lui qui domine actuellement le classement des marqueurs de la LHMQ avec 25 points. Dans la Ligue nationale, évidemment, il y a toutes sortes d'histoires. Il y a des belles histoires comme Buffalo et Colorado, puis il y a des histoires pas mal moins roses comme les Devils et les Stars. Les Stars, c'est une très bonne équipe de hockey, mais ils ont une victoire en 7 matchs depuis le début de la saison. Puis les Devils, on pensait qu'ils allaient être meilleurs.
Ben oui.
L'arrivée de Subban, tout premier choix du dernier repêchage avec Jack Hughes, finalement, ils n'ont pas gagné un seul match. Ils ont 6 matchs de jouer, les Devils. Hier, ils menaient 4-1 contre la Floride. Ils sont fait remonter, puis ils ont perdu 6-4. Donc, ça va mal pour les Devils du New Jersey. Et à l'inverse, ça va très bien pour Buffalo et Colorado. Fait que c'est intéressant, c'est fascinant de suivre ça. Il n'y a pas encore de tendance, mais c'est intriguant
tout,
un peu
tout
partout.
Tout début de la saison.
C'est ça. Tu sais, samedi, le Canadien, on est dans un monde de perception. T'sais, samedi, ouais, le Canadien a gagné sa deuxième victoire de la saison en 5 matchs. Donc, c'est correct, mais c'est pas exceptionnel. Mais parce qu'ils ont battu les Blues de Saint-Louis, là, c'est la folie, c'est le fun.
Ils ont battu les champions de la Coupe Stanley à titre.
Exact,
ce qui montre leur potentiel.
C'est en plein ça. ça a été bien le fun au Centre Bell samedi, j'étais là. Puis ce soir, ouais, c'est le Lightning de Tampa Bay qui s'amène au Centre Bell. Donc, c'est un autre gros match pour le Canadien. Donc, le Canadien, c'est accessible. Tu sais, dans une ligue où tout le monde peut battre tout le monde, tu peux perdre un jeudi soir contre Détroit comme le Canadien l'a fait jeudi dernier. Puis le samedi, 2 jours après, tu bats les champions de la Coupe Stanley. Donc, ça arrive, puis c'est ça qui est le fun pour la Ligue nationale cette année. Puis au baseball, c'est complètement fou. Là, je veux pas te faire le résumé de tous les sports qui ont été présentés en fin de semaine, mais au baseball, les séries sont le fun. Puis c'est comme ça à peu près à chaque mois d'octobre. Là, on a toujours du gros baseball. Mais les Nationals de Washington sont à une seule victoire de la Série mondiale. Ils sont jamais allés en Série mondiale. C'est les Expos qui sont déménagés là en 2004. Et ils mènent 3-0 leur série contre Saint-Louis.
On aurait un petit pincement au cœur quand même.
Ben oui,
ça
sent, ben
là,
oui.
On aurait un
ben
petit
oui.
quelque chose, même si c'est plus du tout la même
c'est
équipe,
ça.
Bien sûr.
Exact.
Merci, Dan.
Parfait.
Du sport, on passe au e-sports, aux jeux vidéo. Le jeu Fortnite fait beaucoup jaser dans les dernières semaines. D'abord parce qu'il y a un recours collectif présentement qui a été mis en place. Il a été demandé par une firme d'avocats. Assez particulier, là, on dit que le jeu crée la dépendance et que la compagnie Epic Games n'explique pas suffisamment pourquoi ça créerait la dépendance, ce qui fait en sorte que les jeunes qui se retrouvent scotchés sur leur sofa ou sur leur chaise d'ordinateur à jouer à Fortnite, se retrouvent en quelque sorte avec de la nicotine entre les mains sans le savoir. Donc, on essaie de ramasser de l'argent de ce côté-là. Mais évidemment, derrière ce recours collectif-là, il y a un réel problème. D'abord, il y a un phénomène avec 250 millions de joueurs en ligne à ce jeu vidéo-là. Même s'il est en perte de vitesse un peu, ça reste encore un des jeux vidéo les plus joués présentement dans le monde. Et derrière ces joueurs-là, il y en a plusieurs qui sont complètement accros. Et on a un cas dans le Journal de Québec ce matin. Johan Morin, un petit bonhomme de 14 ans qui raconte un peu de quelle façon il était accro à Fortnite l'an dernier. Il a déjà fouillé dans les plafonds suspendus de sa maison à la recherche de sa console qui a été cachée par son père. À un moment donné, tellement qu'il était accro, son père il avait confisqué sa console. Il s'était mis à fouiller dans les plafonds pour essayer de les retrouver. Il a déjà fait semblant d'être malade pour jouer, a volé ses parents pour s'acheter des items dans Fortnite. Il dit que l'été dernier, il passait presque 18 heures par jour sur Fortnite. sans dormir, se brossait pas les dents, mangeait juste un repas par jour. Il disait, j'étais même pas capable de mettre un stop sur ma game pour aller aux toilettes. Ça vous donne une idée. Et il aurait pu, évidemment, continuer dans cette veine-là. Sauf si mais heureusement, il est rentré en thérapie fermée pour sa dépendance depuis le 14 août, sa cyberdépendance au jeu Fortnite. Et donc, présentement, il est en train d'essayer de se sortir de ça. Mais c'est grave, là, quand on est rendu à se retrouver en thérapie fermée pour se débarrasser d'une dépendance aux jeux vidéo. D'ailleurs, Fortnite a créé tout un émoi en fin de semaine parce que dimanche, le jeu a arrêté de fonctionner complètement. Est-ce que c'était un bug? Est-ce que c'est une panne? En fait, c'était une espèce d'événement qui a été mis en place par la compagnie Epic Games. Ils ont fait une espèce de trou noir dans lequel il n'y a plus rien qui se passe. Ils ont fait tomber des météorites sur la carte du jeu, ce qui fait en sorte que les joueurs, depuis dimanche, ne peuvent plus jouer à Fortnite. Et ça crée un raz-de-marée de commentaires et de gens paniqués. Il faut lire ça sur les réseaux sociaux, comment il y a des joueurs présentement qui sont désemparés parce qu'ils n'ont plus accès à leur jeu Fortnite. Pour vous donner une idée, là, il y a des joueurs, évidemment, qui jouent à Fortnite. Tantôt, quand je suis allé voir sur le compte Twitter de Fortnite, ils ont publié juste une vidéo en direct où est-ce que vous voyez un trou noir qui indique l'espèce d'inactivité du jeu vidéo. La vidéo en tant que telle, où il n'y a absolument rien, juste un trou noir, un point noir, il y a 12 500 personnes qui regardaient aux alentours de 4h15 du matin tantôt. Il y avait 12 500 personnes qui sont rivées présentement sur Twitter à regarder l'écran pour savoir quand est-ce que le jeu va reprendre. En fait, ce qui va arriver, c'est que c'est un stunt marketing. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'est mettre comme un terme à la saison actuelle pour la repartir de plus belle. Mais ça fait en sorte que présentement, il y a des millions de joueurs tellement accro à Fortnite qui ont complètement paniqué, capoté parce qu'ils n'étaient plus capables de jouer. Imaginez quel point ça peut aller loin dans la dépendance aux jeux vidéo. Il est 5h26, merci d'avoir été là dans l'amorce. Dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle. Et demain matin, 5h, vous devriez m'entendre même heure, même poste. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.